à l'écoute des informations de 19h sur Radio Zinzine en direct des studios de BAM à Marseille. On est revenu de la colline où on était la semaine dernière dans notre petit local favori. Donc Théo au micro, je suis accompagné aujourd'hui de Damien.
Ouais, on est en duo aujourd'hui.
Voilà, en duo, puisque Pierrot traîne dans le coin, mais aujourd'hui, non, il veut pas, on lui offre son repos. Oui, on balance en direct. Voilà, on a Chin à la technique qui sera bientôt rejoint par Luc, notre duo de techniciens de choc. Alors, au programme de cette édition du 16-17 mai, on va faire un petit coup d'éphéméride et on va attaquer ensuite directement avec tout un tas d'informations. En local, on va vous parler notamment de bavures policières, de Veolia, de nos élus Dominique Tian, Christian Estrosi, des maires de Venelle ou de l'attente des mosquées à Marseille. Pas d'invité aujourd'hui, on passera donc directement au national avec les députés qui ont refusé les amendements voulant interdire les tests osseux pour définir l'âge des migrants. On va vous parler également avec Damien d'occupation de bâtisses à Bure contre le stockage de déchets nucléaires. On va parler des dépenses de Rachida Dati quand elle était au ministère de la Justice, qui ont été retoquées, ou de la possible ou pas arrivée de syndicats dans l'armée française. Information internationale ensuite, où on parlera notamment de vaccins anti-cancer à Cuba et bientôt ailleurs, de remaniement ministériel en Haïti, d'énergie renouvelable un peu partout dans le monde. Un petit point habituel sur le renseignement aux États-Unis cette fois, et peut-être de la possibilité de toujours de trouver de la vie ailleurs dans notre système solaire. Voilà, on va attaquer directement avec des éphémérides, surtout les éphémérides du 16 mai aujourd'hui, puisque le 17, c'était pas fameux. Alors Damien, de quoi tu voulais nous parler?
Alors, le 16 mai 1945, c'était un dimanche et c'était la première fois que les femmes françaises votaient lors d'élections municipales. Un petit peu plus tôt dans l'histoire, le 16 mai 1916, étaient signés les accords de Sykes-Picot, accords qui seront très importants pour la suite de l'histoire puisque ils concernaient le partage du Moyen-Orient entre les puissances coloniales ou d'occupation que sont la France et la Grande-Bretagne. Accords qui étaient secrets au départ, mais avec l'aval des Russes et des Italiens, et qui ont ensuite été passés sous la lumière. Donc ces accords déterminaient que le Liban et la Syrie seraient sous mandat français, et la Grande-Bretagne et l'Irak serait sous mandat anglais. Et de même, la Transjordanie et la Palestine étaient sous mandat anglais. C'est important et ça résonne dans l'actualité, puisque en 2014, lorsque l'État islamique a réussi sa conquête d'une partie de l'Irak et puis ensuite d'une partie de la Syrie, c'est justement ces frontières déterminées lors de ces accords de Sykes-Picot qui ont volé en éclats et qui sont peut-être en train de disparaître. Voilà, c'est tout pour les éphémérides
Voilà,
du 16,
du
sauf
16,
si Théo a
le
quelque chose à
17,
rajouter.
non, juste une petite thématique pour le 17, c'était la seule chose intéressante mais importante de cette journée. Le 17 mai, on célébrera la Journée mondiale de lutte contre l'homophobie. Une date qui colle avec cette décision faite en 1990 de supprimer l'homosexualité de la liste des maladies mentales dans la classification officielle de l'Organisation mondiale de la santé. Au passage, 13 ans plus tard, en 2013, la France a adopté le mariage homosexuel et l'adoption homoparentale. Voilà, c'est tout pour nos éphémérides. On va passer notre tout. Ah, Damien?
L'agenda peut-être
Oui,
de la
agenda, oui,
semaine.
je crois que
Alors
tu as des choses, il me semblait
quelques
qu'on avait rien.
rendez-vous. D'abord un rendez-vous qui concerne un soutien aux militants de RESF. Donc ça sera le 20 mai à 9h devant le tribunal administratif de Marseille. Ça concerne des faits qui ont eu lieu il y a 4 ans. Le 12 mars 2011, il y avait environ 200 manifestants qui s'étaient rassemblés à l'appel du collectif RESF. À l'aéroport de Marignane, protestant contre l'expulsion d'un père comorien et de 3 enfants qui étaient scolarisés à Marseille. Et donc cette mobilisation avait porté ses fruits, puisque le soir même, le père retrouvait femme et enfant, et 9 mois plus tard, il était même régularisé. Sauf que dans l'histoire, à l'époque on était sous Sarkozy, il y a donc 2 militants qui ont fait l'objet de poursuites judiciaires, et qui avaient été déjà une première fois condamnés à une amende administrative de 200 € chacun. Il y avait eu à l'époque des milliers de signataires d'une pétition intitulée « La solidarité n'est pas un délit » qui demandait donc l'arrêt de cette procédure. Or, c'est donc le 20 mai dans la matinée que cette affaire sera de nouveau jugée plus de 4 ans après au tribunal de Marseille. Donc le rassemblement est prévu à 9h le 20 mai devant le tribunal administratif. Deuxième rendez-vous, ça sera ce lundi. Et alors c'est devant tous les tribunaux de France et à Marseille, donc à 18h, le rendez-vous est donné à l'angle Canebière-Cour-Belzunce pour commémorer 10 ans après la mort de Ziad et Bouna en 2005. La date n'est pas choisie au hasard, puisque une décision de la Cour d'appel doit être rendue publique le lundi 18 mai, qui fait suite au marathon judiciaire des familles des jeunes décédés qui ont voulu faire toute la lumière sur la mort de ces enfants. Rappelons brièvement les faits. Le 27 octobre 2005, à Clichy-sous-Bois, une dizaine d'adolescents sortaient d'un match de foot et étaient interpellés par la police et partaient en courant pour s'enfuir du contrôle. Ils étaient pris en charge par plusieurs voitures de la BAC. Et lors de cette poursuite, Ziad, Bouna et Mouhitine s'étaient réfugiés dans un transformateur EDF. Et malheureusement, 20 minutes plus tard, Ziad et Bouna étaient morts électrocutés. Et leur copain Mouhitine était, lui, gravement brûlé. Et c'est lui qui était parvenu à prévenir les secours. Voilà, donc 10 ans de bataille judiciaire et donc un dernier rendez-vous ce lundi 18 mai. Et donc le rendez-vous pour manifester la solidarité avec les familles de Ziad et Bouna, c'est à 18h à l'angle Canebière-Cour-Belzunce.
Merci.
Et un dernier rendez-vous qui concerne la journée internationale de marche contre Monsanto. Ce sera une manifestation sans étiquette politicienne pour réclamer une agriculture et une alimentation saine pour tous et toutes. Et le rendez-vous est fixé samedi prochain, le 23 mai, à 14h, au kiosque à musique qui se situe en haut de la Canebière, dans le premier à Marseille.
Et il y aura des manifestations dans beaucoup d'autres villes de France, oui. C'est une marche mondiale. Donc si vous nous écoutez ailleurs que dans le coin, n'hésitez pas à vous renseigner pour savoir où est-ce que vous pourrez manifester près de chez vous. Allez, on fait une toute petite pause musicale et on revient avec l'actualité locale. We'll be right back. sommes de retour, toujours des studios de BAM à Marseille. Alors on attaque avec Damien qui va nous parler de bavures policières.
Ouais, alors le 19 avril, Freddie Gray, jeune afro-américain de 25 ans, mourait en détention à Baltimore. Et c'est l'occasion, étant donné la mobilisation qui en a suivi aux États-Unis, de rappeler qu'en France aussi, il arrive que la police tue des gens. Et c'est ce que fait le journal voisin, qui est juste à côté de chez nous, CQFD, qui revient sur certaines bavures policières, rappelant notamment que dans la nuit du 5 au 6 mars, Amadou Courmet, 33 ans, est mort au commissariat de la rue Louis Blanc dans le 10e arrondissement de Paris, et que dans la nuit du 25 au 26 avril, Pierre Cayette, 54 ans, est ressorti mort du commissariat de Saint-Denis. Un article aussi sur Mourad Touat, un jeune de 16 ans qui est mort le 1er avril 2014 à la cité Fontvert à Marseille, mort lors d'une interpellation par la BAC où il aurait sauté d'une fenêtre du deuxième étage. Et en fait, lorsqu'il s'est retrouvé au sol, il a été pris de convulsions. Et d'après les témoignages, il semblerait que la police, au lieu de le secourir, aurait continué à avoir pour seule préoccupation de lui arracher la sacoche contenant le shit pour prouver que c'était bien un délinquant qu'ils avaient coursé. Et la preuve de cela est que les secours n'ont pas été prévenus par la police, mais par les habitants du quartier qui ont vu la scène. Et, sauf que... malheureusement, lorsque les secours sont arrivés, le jeune homme de 16 ans donc était déjà décédé et la police était bien trop occupée à se protéger elle-même puisque pendant ce temps-là, ils étaient en train de d'appeler des renforts et de créer un cordon autour d'eux pour se protéger des habitants du quartier passablement énervés et on les comprend.
Oui, on imagine, ouais.
Ce que pointe le journal CQFD, c'est que ces violences policières sont pas prêtes de s'arrêter et qu'elles résultent d'une politique claire qui est la politique de la guerre contre la drogue. Une politique qui est menée depuis de nombreuses années aux États-Unis et on voit les conséquences que ça apporte aujourd'hui, tant en termes de violence que de ségrégation sociale, voire raciale. Et on n'a peut-être pas envie d'en arriver là en France. En tout cas, c'est la politique actuelle de donc faire la guerre contre la drogue, puisque à Marseille ont été envoyés 230 policiers supplémentaires depuis le début de l'année. On a créé une unité spécialisée, un groupe de renseignement destiné à lutter contre le trafic de drogue, et que les 3e, 14e, 15e et 16e arrondissements de Marseille sont devenus des zones de sécurité prioritaires, appelées Marseille Quartier Nord, de façon à mettre la pression sur ces quartiers, sur les trafiquants, mais peut-être pas seulement sur les trafiquants, et aussi clairement sur les habitants de ce quartier
aussi, ouais,
qui en subiront malheureusement les conséquences. À noter, un rendez-vous à Marseille dans ce contexte, il y aura un concert de rap contre les violences policières et en soutien donc à la famille de Mourad. Ça aura lieu le 5 juin au Dar La Mifa, donc au 127 rue d'Aubagne, dans le 6e à Marseille.
Très bien. Mais d'ailleurs, enfin, tu disais la répression, surtout aux États-Unis, chez nous, elle peut être aussi pas mal. Et là, en ce moment, ça risque pas de s'arranger. On a vu que Cazeneuve, en parlant de... puisqu'il y avait les affaires à Saint-Ouen, quartier de Paris où qui est privilégié par les acheteurs et les vendeurs de cannabis parce que c'est pratique. Bernard Cazeneuve, notre cher ministre, a dit clairement qu'il allait mettre la pression sur les revendeurs, les guetteurs, etc. Mais en deuxième position de sa liste, il a mis les acheteurs quand même. Donc on parle beaucoup en ce moment de réfléchir à la législation sur le cannabis, etc. Mais notre cher gouvernement a toujours pas l'air prêt de...
Sans compter que, si j'ai bien compris la stratégie, c'est de cibler les quartiers dont on entend parler, de les cibler clairement, ouais, de faire une grosse descente, de faire le siège des quartiers pendant peut-être un mois. Puis ensuite, de toute façon, un jour ou l'autre, les forces de l'ordre devront bien partir. Sans compter que pendant ce temps-là, il est possible que les trafiquants aient eu le temps de se délocaliser et d'aller un tout petit peu plus loin.
Voilà.
Bon, on suivra de toute façon ce dossier sur, sur la longueur.
Ça, c'est certain. Une petite brève sur pour vous parler de Marc Fiazzo, ce salarié de Veolia qui avait décidé de, d'arrêter d'effectuer des coupures d'eau pour les factures impayées. Donc un salarié de Veolia qui travaillait à Avignon et qui, dont le licenciement s'est fait valider ce mardi par le Conseil des Prud'hommes. Donc le salarié âgé de 50 ans a été débouté de l'intégralité de ses demandes. Il réclamait quand même 362 000 euros et 362 062 062 euros pour être précis d'indemnité, où il voulait être réintégré à Veolia, boîte qu'il employait depuis 1964 quand même. 1994, excusez-moi, il y a 50 ans ça aurait été compliqué. Donc Marc Fiazzo avait été licencié pour insubordination et désorganisation du service, puisque depuis 2009 il préférait conseiller aux gens qui ne payaient pas leur facture d'eau il leur conseillait de solliciter un échéancier auprès des services de recouvrement ou de passer par une prise en charge par les services sociaux. Il faisait ça depuis une réorganisation des services en 2005, et c'est, ça a été un des arguments de la défense de Veolia, puisque l'avocat expliquait que l'employé avait cessé donc radicalement de recouvrer les impayés après le refus de la direction d'accorder aux 7 employés de son service une prime mensuelle de 300 euros. Veolia avait proposé une revalorisation salariale mensuelle de 60 euros qui avait été rejetée par les travailleurs. Donc combat social, petit Robin des Bois à son niveau, ou juste
Robin des Bois, ou alors ça me ferait penser à un autre personnage du film Brasil, le personnage de Tuttle,
oui.
le plombier qui vient réparer chez les gens gratuitement, ce genre de bienfaiteur. Donc licencié pour délit de solidarité, en fait.
Voilà, grosso modo, c'est ça. Donc, en 2014, le Conseil des Prud'hommes n'avait pas réussi à trancher sur le litige, puisque, apparemment, c'est une question qui est assez complexe. Ils avaient renvoyé l'affaire devant un juge départiteur qui avait examiné l'affaire et avait donné son avis donc, au Conseil des Prud'hommes, qui a validé le licenciement. Marc Fiazzo peut encore faire appel, donc peut-être que... qu'il pourra s'en sortir pour son délit de solidarité. On vous tiendra au courant si on a les nouvelles. Alors, petit volet politique, Damien. Dominique Tian, qui est poursuivi pour fraude fiscale.
Ouais, notre député UMP, donc des Bouches-du-Rhône, Dominique Tian, va faire l'objet d'une enquête de la Haute Autorité pour la Transparence de la Vie Publique, qui avait des doutes sur sa déclaration de patrimoine en tant que parlementaire, quant à donc l'exhaustivité, l'exactitude et la sincérité de sa déclaration de situation patrimoniale. En gros, il aurait donc dissimulé une partie de son patrimoine, notamment visé 2 millions d'euros qui dormiraient sur un compte en Suisse et des biens immobiliers cachés en Belgique. C'est un petit peu étonnant de la part de Dominique Tian, et ça révèle d'un double langage pour le moins, puisque il a rédigé en 2011 pour l'Assemblée un rapport sur la fraude sociale et donc aussi sur la fraude fiscale, dans laquelle il fustigeait les fraudeurs, mais notamment les fraudeurs aux allocations. Et on se lasse jamais de rappeler que les fraudes aux allocations sont bien moins importantes que les fraudes aux cotisations, et que ce qui ruine le plus l'État, ce sont carrément donc les fraudes fiscales, dont est manifestement coupable Dominique Tian. Voilà, sachant que il avait fait voter donc un amendement qui permet le croisement automatisé des fichiers sociaux et du fisc pour permettre de coincer donc les fraudeurs aux impôts ou aux cotisations sociales type Sécu, ou les arnaques aux fausses cartes vitales. Par contre, il n'avait pas voté les lois relatives à la transparence de la vie publique, ni la loi relative à la lutte contre la fraude fiscale. À votre avis, pourquoi? Voilà, c'est tout pour Dominique Tian, pour aujourd'hui.
Pour aujourd'hui.
Mais on suivra le dossier.
Oui, on ne manquera pas d'en reparler.
Toujours dans l'UMP.
Toujours dans l'UMP.
Et toujours dans la région.
Voilà.
une déclaration drôle de Estrosi.
Notre comique préféré de la région.
Oui, comique à 16 heures. Des fois, il me fait plus trop rire. Mais sur le coup, c'était assez marrant. Il a lâché le 10 mai au JDD cette phrase qui pose question quand même. Je le cite. Donc, j'admets volontiers être Big Brother. Donc, Christian Estrosi, Big Brother. Mais attention, dans le bon sens du terme. Donc voilà, Big Brother dans le bon sens du terme. Effectivement, ça n'aurait pas été renié par le dictateur d'Orwell. Lui aussi se considérait comme le grand frère et on contrôle les gens pour leur bonheur.
Bien sûr.
Non, mais donc voilà, c'est une déclaration qu'il a faite en relation avec sa politique à Nice, où donc il y a un maximum de caméras et où la ville devient, alors c'est pas une ville fliquée d'après lui, c'est une ville intelligente. Nuance importante, hein. Les éléments de langage sont toujours très importants en politique. Et donc cette ville intelligente permet de filmer toutes les rues, d'être à l'affût des incivilités et des délits qui pourraient s'y passer, et d'envoyer ensuite la police sur les cibles. Mais pas seulement, et c'est ce qu'essaye de faire valoir Christian Estrosi, puisqu'on récupère aussi des tas d'informations sur les places de parking disponibles, par exemple, de façon aussi à ce que les poubelles ne soient vidées que quand elles sont pleines, ou de façon à ce que les zones de pollen puissent être repérées et que les habitants puissent le voir sur un site internet. Le petit problème, c'est que ces millions et ces millions de données high-tech qui sont récoltées par la ville en ce moment, on ne sait pas très bien par qui elles vont être traitées et sur combien de temps elles vont être conservées. Et ça risque de poser quelques soucis. On espère que la CNIL, la Commission Nationale Informatique et Liberté, se penchera rapidement sur le cas de la collecte massive de données qui est en train de se produire à Nice, ville de Estrosi, le Big Brother dans le bon sens.
Le Big Brother dans le bon sens.
Ça va devenir un leitmotiv pour sa campagne régionale, je crois, ça.
Votre ami Big Brother. On continue sur des déclarations sympatoches de la part d'élus, avec le maire de Venelle, on en parle rapidement.
Ah oui, alors là c'est carrément, là c'est très très fort. C'est vraiment, c'est trop fort même. Puisque donc le maire de Venelle, Robert Chardon, donc UMP, oui, je le précise, un peu UMP, c'est quand même important. Donc, a assuré sur son compte Twitter qu'il faut interdire le culte musulman. Et alors, apparemment, c'est pas la première fois qu'il aurait des déclarations dans ce sens, puisque les élus qui l'encadrent avouent qu'il serait peut-être en train de perdre la tête. En tout cas, cette question de l'islam devient vraiment une obsession chez cet élu. Mais pas seulement chez cet élu, c'est ce qui pose question, c'est que ça intervient dans un climat général où l'islamophobie tend, il me semble, à se répandre un petit peu partout. Mais bon, sur cette déclaration, l'UMP a sanctionné, et donc cet élu UMP, donc Robert Chardon, fait l'objet d'une procédure d'exclusion du parti. Pour l'instant, il est suspendu. Voilà, déclaration quand même assez grave. On se posait donc la question si c'était un simple dérapage qui aurait échappé à Robert Chardon, mais non, puisqu'il est revenu sur ses tweets et a répété, c'est la seule solution pour résoudre les problèmes que connaît la France, assure-t-il, et j'attends une réponse de Nicolas Sarkozy à cette proposition. Alors pourquoi Nicolas Sarkozy? Parce que cette phrase qui a fait scandale avait été posée sur le compte de Nicolas Sarkozy, en fait, en vue d'un débat sur Twitter qui a eu lieu entre Nicolas Sarkozy et les Twitos, je crois, on dit les Twitos,
ouais.
Hier ou avant-hier. Et donc c'était dans le cadre de ce débat que l'élu voulait interpeller Sarkozy sur cette question. Eh ben, c'est bien, il a interpellé Sarkozy, mais pas que Sarkozy. Voilà, voilà.
On reste sur la thématique... Cette fois-ci, plus des politiques, mais on reste sur l'islam.
Oui.
Les mosquées à Marseille, donc on en attend.
Ouais, alors gros souci, ça. C'est vrai que il y a quand même un certain nombre de musulmans dans la région. Je crois que c'est. Aujourd'hui, on compte 1 million, enfin, on estime à 1 million le nombre de musulmans dans la région, et à 250 000 sur Marseille. Et tout ça sans qu'il n'y ait aucun lieu de culte officiel. et c'est ce que demandent depuis de nombreuses années les représentants musulmans et la population musulmane dans son ensemble, de façon à sortir l'islam des caves et à lui offrir une vitrine visible et officielle. Il faut rappeler qu'en 2001, Jean-Claude Gaudin, qui était fraîchement réélu, avait promis la construction de la grande mosquée qui devait donc se construire sur le terrain des anciens abattoirs de Marseille, dans le 15e arrondissement. Et en 2010, avait été posée la première pierre qui s'apparente aujourd'hui aussi à la dernière pierre. Première et dernière pierre en 2010, puisque depuis, le chantier est à l'arrêt, n'a jamais démarré. Alors les causes de cet arrêt, c'est pas seulement Jean-Claude Gaudin qui est responsable. Il faut savoir que en 2006, une délibération du conseil municipal avait accordé un bail de 99 ans avec un loyer de 300 euros à l'association qui gère le projet. Et cette décision avait été attaquée par le FN, le MNR et le MPF, donc les trois partis d'extrême droite, qui estimaient que c'était une subvention déguisée, qui remettait donc en cause la loi de 1905 sur la séparation de l'Église et de l'État. Le tribunal administratif leur avait donné raison, et donc l'accord entre la mairie et l'association qui devait construire la mosquée avait été suspendu. Un nouveau bail a été signé, donc réduit à 50 ans, et augmentant le loyer jusqu'à 24 000 euros par an. Il faut savoir que ce loyer est payé depuis donc 2007 par l'association, qui paye 24 000 euros par an pour une friche minable dans laquelle ils ne peuvent rien faire et qu'ils n'occupent pas, sachant que, étant donné qu'il n'y a aucune subvention justement pour les associations religieuses, ces frais sont payés par les musulmans qui donnent leur argent pour des collectes pour cette mosquée, et qui pensaient donner cet argent à bon escient pour faire construire une mosquée. Il semble aussi que l'association qui gère le projet ait eu pas mal de soucis et qu'ils aient peut-être aussi un peu mal négocié certains points. Alors notamment, la mairie réclame 2 millions d'euros à l'association sur les 22 millions estimés du projet, juste pour raser la friche, qui ne peut pas être réutilisée parce qu'elle n'est pas tournée vers la Mecque. Et là, il y a dissension à l'intérieur de l'association, puisque certains considèrent qu'il suffit de tourner les tapis de prière vers la Mecque, et qu'on n'a pas besoin d'avoir un bâtiment qui soit tourné vers l'Est, et que ça ferait 2 millions d'économies. Bref, beaucoup de débats en interne aussi, et tout ça participe au découragement de la communauté musulmane, puisque beaucoup de gens, et souvent pauvres, ont donné parfois jusqu'à leur or pour ce projet, peut-être irréalisable, en tout cas toujours pas réalisé, et qui n'a pas avancé d'un iota. Il n'y a pas qu'à Marseille qu'on a des soucis avec ça. Dans la région, il y a plusieurs projets de mosquées qui ont des difficultés ces temps-ci. Et je vais vous citer encore une déclaration de Christian Estrosi, qui lui considère que il n'y aura aucune construction de nouvelles mosquées tant que l'islam ne se sera pas structuré en France. Donc voilà, pour lui, il estime que l'islam n'est pas structuré et qu'il n'y aura plus de construction jusqu'à ce que ça soit le cas. Il a déclaré ça dans Nice Matin le 6 avril 2015. Donc désolé pour les 250 000 les 250 000 musulmans de Marseille et le million de musulmans de la région. Pour la grande mosquée de Marseille, il faudra attendre encore longtemps, voire très longtemps.
Voilà, donc structurez-vous sans structure qui vous permette de vous structurer, en gros, puisque si on n'a pas de lieu en plus pour que les choses se passent, pour structurer un culte, c'est pas évident, quoi, forcément, ça... Ça se disperse dans les caves.
Oui, et puis le problème, c'est qu'à force de prier dans les caves, on entretient un ressentiment des musulmans qui se sentent, c'est le cas, qui sont exclus de notre République. Et ensuite, on vient leur dire de ne pas prier dehors, en plus, même dans la rue, ils ne peuvent plus prier.
Ah bah non, attendez.
Donc c'est vrai que c'est un épineux problème, une question très compliquée. Et alors souvent, il faut faire attention aussi au concept de laïcité, qui est un concept parfois à géométrie variable. J'ai cité tout à l'heure donc la suspension du bail qu'avait donné la mairie à l'association. Il faut savoir qu'à une centaine de mètres du site prévu pour accueillir la grande mosquée de Marseille, il y a un collège, école, enfin une école catholique, l'école Saint-Louis, qui elle aussi a bénéficié d'un bail emphytéotique, donc de 99 ans, pour seulement 150 euros de loyer annuel. Mais là, l'extrême droite ne s'y est jamais opposée. Normal, c'est un enseignement catholique. Donc voilà, le concept de laïcité, attention à ce que... est-ce qu'il n'y a pas deux poids, deux mesures en la matière?
Allez, sur ces belles paroles, on va passer un tout petit peu de musique et on revient pour l'information nationale. Retour dans les studios de BAM à Marseille pour ces informations de 19h. On attaque l'actualité nationale avec ce refus des députés français de supprimer les tests osseux sur les migrants de la loi. Alors les tests osseux, qu'est-ce que c'est ? C'est une pratique qui se fait depuis un paquet d'années pour estimer l'âge des sans-papiers qui arrivent en France, des migrants illégaux. Donc le principe, c'est de passer une radio du poignet des personnes qui ont l'air mineures pour observer un cartilage de croissance qui est censé disparaître autour de l'âge de 18 ans. Le problème, c'est que scientifiquement, c'est bien pas valable et c'est contesté par de nombreuses personnes de la communauté scientifique, mais pas que. En 2014 notamment, le Haut Conseil de la Santé Publique avait dénoncé cette pratique en rappelant que la maturation d'un individu diffère selon son sexe, son origine ethnique ou géographique et son régime alimentaire. Sauf que cette technique qui permet donc de savoir si la personne est adulte, est née aux États-Unis dans les années 50 et basée sur une référence que de jeunes Américains blancs de l'époque. Donc pour tout ce qui vient des pays africains ou autres, c'était pas forcément valable. Mais voilà, donc aujourd'hui on se base sur ça pour prendre en charge le destin d'un étranger qui arrive en France. Là où se passe la différence, c'est que s'il est déclaré mineur, l'État a l'obligation de prendre en charge le migrant. Il doit le confier à l'aide sociale à l'enfance, organisée au niveau du département, qui le réinsère dans la société française. Bon, par contre, s'il est majeur, le jeune peut faire l'objet d'une procédure d'expulsion du territoire et il peut même se voir réclamer par l'État le remboursement des aides dont il a pu bénéficier. Plusieurs amendements de gauche ont été déposés dans la nuit de mardi à mercredi dans le cadre de l'examen de la loi sur la protection de l'enfance. des amendements qui voulaient interdire ces tests osseux, puisque les médecins ont l'air de s'accorder sur le fait qu'il y a une marge d'erreur d'à peu près 18 mois. Donc à 16 ans, on peut très bien avoir perdu tous ses cartilages, toujours être mineur, mais dans la loi, si on n'a pas de papier, on peut se faire mettre dehors, considéré comme majeur. Les députés ont rejeté tous les amendements en bloc, ont décidé de garder cette pratique. Pratique contre laquelle je vous fais une petite liste des institutions qui ont pris position contre les tests osseux. On a les défenseurs des enfants qui ont fait des 2005, le comité consultatif national d'éthique en 2005 également, l'Académie nationale de médecine avait dénoncé ça en 2007, le comité des droits de l'enfant en 2009, le commissaire aux droits de l'homme de l'Union européenne avait rejeté ça en 2012, le défenseur des droits en France en 2012, le Haut Conseil de la santé publique en 2014 et la Commission nationale consultative des droits de l'homme en 2014. Et pour pas oublier, le commissaire aux droits de l'homme du Conseil de l'Europe en 2015. Une bonne flopée de personnes qui rejetaient ça. Le réseau Éducation sans frontières, dont on vous parle souvent, a déploré hier que le président de la République et le Premier ministre, ainsi que le ministre de la Justice et celle de la Famille, se moquent des avis de toutes ces commissions. Et que leur désir est de prouver qu'en matière d'immigration, ils en remontent à la droite, ils s'inscrivent dans la loi des examens dont tout le monde, à commencer par eux-mêmes, sait qu'ils sont sans valeur scientifique pour l'usage qu'ils en aient fait. Le gouvernement, quand même, qui se veut de gauche, qui veut un peu se défendre, a fait adopter l'amendement, mais vise, dit-il, à limiter au minimum ces tests. Donc les tests seront pratiqués avec l'accord de l'intéressé, qui parle pas forcément français, donc il faut trouver quand même en plus.
Oui, c'est un accord très relatif.
C'est un accord très relatif.
C'est l'accord s'il veut avoir la nationalité française, enfin s'il veut avoir le droit d'asile ou le droit d'entrée en France, quoi.
C'est un
ou
peu de rester. Ça, quoi. Ils seront pratiqués uniquement en cas de doute sérieux sur son âge et ne pourront être conclusifs à eux seuls. Déjà, c'est, on pourra dire, peut-être un petit pas. On se basera pas que sur une pratique complètement pas valable scientifiquement. Certains élus PS, écologistes ou du Front de Gauche ont continué quand même à s'élever contre ça, mais trop tard, les députés avaient refusé de l'enlever. Une occasion gâchée de faire avancer les droits des enfants migrants. Peut-être qu'à 16 ans, ils vont pouvoir se retrouver encore rejetés chez eux. Qui sait, peut-être que au Sénat, où le texte va arriver dans les prochains jours, quelque chose changera, mais vu la position des députés, il y a peu de chance, quoi. C'est pas très encourageant. Bientôt, on va peut-être faire des tests crâniens pour définir la personnalité des migrants, pour savoir s'ils sont dangereux ou pas, des pratiques qui n'existent plus depuis le 19e siècle. Voilà.
Ouais, donc une pratique immorale et dégueulasse, et surtout sans aucun fondement médical ou scientifique.
Surtout pas.
Mais validé par les députés une nouvelle fois, et la majorité de, entre gros guillemets, gauche.
Voilà, des députés qui
merci.
Qui pouvaient se
merci les socialistes.
Pouvaient, voilà, des députés qui devaient bien se sentir à leur époque en 1950. Voilà. Damien, à Bure, qu'est-ce qui se passe?
Alors à Bure, on vous en parle assez souvent, donc de Bure, où l'ANDRA, donc l'Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs. Donc Bure, c'est dans la Meuse, et c'est là que l'ANDRA a prévu de construire son CIGEO. Alors le CIGEO, c'est le centre industriel de stockage géologique. Et qu'est-ce qu'on va stocker là-dedans? On va stocker à 500 mètres de profondeur 99% de la radioactivité française, c'est-à-dire tous nos déchets nucléaires issus des centrales nucléaires et... désolé, on sonne à la porte, du coup je réagis. Mais on va continuer. Donc on va stocker là toute la radioactivité française. Et le projet de construction doit démarrer en 2017. Mais ça fait un petit moment que les prémices du projet et du chantier ont commencé. Et depuis 2004, il y a une maison de la résistance à la poubelle nucléaire qui s'est constituée, avec une association, l'association Bure Zone Libre. Et donc, c'est cette maison qui accueille les militants qui passent et qui organisent des actions pour alerter la population et tenter, tant bien que mal, de lutter contre le puissantissime lobby du nucléaire qui est à l'œuvre dans la région. Et ça va être notamment très très difficile puisque la commune de Bure est largement arrosée par l'Andra en termes de liquidité, pour, c'est un loyer pour accueillir ce site de stockage nucléaire. Donc cette maison de la résistance à la poubelle nucléaire qui s'est constituée donc depuis 2004 va avoir beaucoup de travail puisque le chantier proprement dit doit démarrer en 2017 pour un premier stockage de déchets nucléaires en 2025. Donc le combat ne fait que commencer, mais on commence à organiser des choses pour cet été. Alors si vous ne savez pas encore quoi faire du 1er au 10 août prochain, eh bien rendez-vous à Bure, puisqu'il y aura un camp anti-autoritaire et anti-capitaliste contre Cigéo et son monde. Donc du 1er au 10 août, rendez-vous à Bure, à la maison de la résistance à la poubelle nucléaire.
Merci Damien. On va vous parler rapidement de Rachida Dati, dont les dépenses pendant qu'elle était au ministère de la Justice ont été en grosse partie invalidées par la Cour des comptes. Donc Rachida Dati a eu son lot de soucis récemment, histoire de téléphone à l'UMP, des soupçons de conflit d'intérêts au Parlement européen. Et ben la voilà de nouveau pointée du doigt, c'est ce qui a dévoilé Le Point mercredi. Qui a dévoilé un arrêt de la Cour des comptes rendu le 22 janvier dernier qui a retoqué près de 190 000 euros de dépenses de l'ancienne ministre de la Justice entre 2008 et 2009. Donc l'ancienne garde des Sceaux notamment a priori passé des contrats de communication sans appel d'offres avec un proche de Nicolas Sarkozy, original. Et il y a quelques frais de représentation d'un montant de près de 9 000 euros qui était visiblement abusif, pour vous dire à quel point, dans une liste publiée en annexe de son arrêt, la Cour des comptes a recensé plus de 1500 euros en vêtements et en accessoires, près de 1400 euros de cadeaux de luxe, et plusieurs notes de restaurants ou de cave à vin, et beaucoup, une myriade de factures, nous dit Le Point, de pâtisserie qui oscille entre 4 et 312 euros. Donc, bon, les bonnes pâtisseries.
Bonnes pâtisseries, ouais. Là, c'est un peu gras. Là.
Ah, là, c'est un peu gras. C'est, elle a racheté tout l'étalage. Voilà. Alors, Le Point évoque également, même si a priori l'arrêt de la Cour des comptes n'en parle pas, un foulard Hermès aux frais de l'État. Comme ça, on fait un peu tourner l'industrie du luxe, on comprend pourquoi elle marche pendant la crise. Alors ça c'était pour les frais de représentation. Le gros de la somme invalidée, c'est un gros dossier, puisque le ministère de la Justice avait passé en 2008 un contrat avec la société Giacometti Perron, qui était impliquée dans l'affaire des sondages de l'Élysée déjà, affaire dont vous avez sûrement entendu parler. Des contrats qui ont rapporté à la société de Pierre Giacometti, proche de Nicolas Sarkozy, de toucher 51 000 euros en 2008 et 128 000 euros en 2009. Alors, le problème, notamment pour M. Giacometti, c'est qu'aucune des factures que l'entreprise n'a produites ne justifiait les prestations qui ont été exécutées. Donc, petite manœuvre fiscale sympatoche. Alors, bon, Rachida Dati, pas contente, a décidé qu'elle allait engager des poursuites contre Le Point, puisqu'elle estime que l'acharnement dont le journal fait preuve a assez duré, elle ne laissera pas ça passer, et elle a pris contact avec son avocat. Elle a précisé que le ministère de la Justice n'a jamais financé de dépenses personnelles ou quelconque vêtement, et elle fait remarquer que la Cour des comptes ne l'a jamais mise en cause à titre personnel ni à titre professionnel. En attendant, même si elle n'a pas encore été mise en cause de manière équivoque, elle semble quand même bien dedans, quoi. On va voir ce que ça va donner.
Elle était très remontée, je l'ai entendu parler même de cabale.
Oui.
Alors là, je crois que voilà. Le mot est un peu fort, faut pas trop t'affoler, Rachida.
Voilà. Non, mais les politiques aiment bien aller crier à la cabale aujourd'hui quand on met les mains dans leurs sales affaires, j'ai envie de dire. Les syndicats à l'armée, alors, Damien. Comment ça va se passer?
Oui, alors, c'est l'Europe, en fait, qui va venir embêter un petit peu l'État français sur ce sujet. La plus haute juridiction du Conseil de l'Europe a donc statué sur le fait que l'interdiction absolue des syndicats au sein de l'armée française est contraire à la Convention européenne des droits de l'homme. Donc la France sera obligée de mettre en place des syndicats dans l'armée. Et ça effraie beaucoup les gradés de l'armée qui sont déjà assez énervés en ce moment pour des questions de budget et de restrictions d'effectifs. Et donc ça met un petit peu le foutoir dans l'armée. Alors que va faire l'État? Que va faire le gouvernement de François Hollande? Il va essayer de contourner un petit peu donc l'avis du Conseil de l'Europe. Il y a un avant-projet de loi qui a été rédigé et qui va donc proposer en fait de faire un droit syndical dans l'armée, mais sans syndicat. Pourquoi? Parce que ce qu'on veut surtout
mais
pas.
Comment c'est... donc ils vont faire ça?
Alors comment on va faire? Ben, c'est comme dans l'entreprise où il y a ce qu'on appelle les syndicats jaunes, c'est-à-dire qu'il y aura le syndicat général, quoi, le syndicat public, le syndicat de l'armée, où tout le monde pourra venir. Beaucoup de choses vont demeurer interdites. Notamment, il sera totalement interdit de faire un syndicat, enfin une association qui ait un statut local, de façon à empêcher surtout les militaires de s'organiser au niveau, par exemple, d'un régiment. Donc ça sera strictement interdit. Autre chose qui sera strictement interdite, ça sera de faire émerger une association catégorielle, c'est-à-dire qui serait structurée en fonction des grades ou des corps. Donc le but, c'est d'empêcher surtout que le syndicat fasse son premier rôle, qui est de mener la lutte des classes, en empêchant qu'il se structure en sous-officiers ou officiers, ou, etc. Donc voilà, ça restera totalement interdit. Et encore une chose qui sera interdite, les manifestations publiques devront donc s'interdire de recueillir le soutien de l'opinion publique contre l'institution militaire. Je répète, parce que ça c'est très important, donc les associations de syndicalistes militaires devront s'interdire de recueillir le soutien de l'opinion publique contre l'institution militaire. Donc ils auront le droit de manifester seulement dans le cas où l'opinion les désapprouve complètement. Si jamais on était d'accord avec eux, par exemple, pour arrêter une guerre débile en Irak, en Afghanistan, en Centrafrique ou je ne sais où, alors là, pour le coup, ils n'auraient absolument pas le droit de manifester, quoi. Surtout pas. Voilà, donc tout ça sera interdit. Donc voilà, une ouverture au syndicalisme finalement très, 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 très relative aura lieu en France. Sachez tout de même que, pour le moment, aucune protection juridique n'est prévue pour les responsables syndicaux qui seront élus dans l'armée. Donc je doute qu'il y ait beaucoup de volontaires.
Et ça risque pas, on espère qu'il y aura quelques courageux dans les rangs pour un peu mettre des coups de pied à fourmilière, mais ça va être compliqué pour eux.
Bon, mais sinon, ce qui est rassurant, c'est que les généraux sont très forts pour désigner des volontaires.
Oui, de toute façon, ça... On leur fait confiance. On salue l'arrivée de Luc à la technique avec une petite pause musicale et on revient pour l'actu internationale et la fin de ces informations.
toujours à l'écoute de Radio Zinzine, c'est les infos en direct de Radio BAM à Marseille. Et Théo va nous parler d'une facette méconnue du régime cubain.
Ben oui, dans le pays des fumeurs de cigares, figurez-vous que depuis 2011, il y a a priori le premier vaccin au monde contre le cancer des poumons, qui s'appelle le Climavax, qui est disponible au public. Un vaccin dont chaque piqûre coûte à peu près 1 $. Alors, dans sa grande générosité, le gouvernement cubain a décidé de le rendre gratuit pour le public. En 2015, maintenant que l'embargo contre Cuba commence un peu à se disloquer, que l'ouverture au monde se refait, ben, les autres pays du monde commencent à être curieux et veulent bien aussi avoir accès à ce vaccin. Donc, il y a le Centre d'immunologie moléculaire de Cuba qui a finalisé des accords avec le Roswell Park Cancer Institute aux États-Unis pour faire un projet qui vise à développer ce vaccin contre le cancer du poumon dans le monde entier, et l'introduire en tout cas dans un premier temps aux États-Unis. Où il devra avoir l'accord de la FDA, la Food and Drug Administration, pour que les essais cliniques soient lancés. Donc une bonne nouvelle qui arrive après 55 ans d'embargo des États-Unis contre Cuba. Obama et son administration essayent de calmer les relations avec Cuba, les rendre plus normales, et ont levé notamment des restrictions sur la recherche et sur la médecine. C'est un vaccin qui, a priori, depuis son arrivée dans le public, a vraiment l'air fiable. Un vaccin qui n'est pas un vaccin où vous inoculez pas ça à la naissance pour vous empêcher d'avoir un cancer du poumon. Non, quand même pas. Il faut avoir un début de cancer pour le prendre. En gros, le principe, c'est une protéine qui s'appelle en anglais, j'ai pris un article anglais, excusez-moi, mais l'épidermal growth factor, donc le facteur d'accroissement de l'épiderme, qui stimule la croissance de cellules qui se trouvent partout dans le corps. Un cancer, en fait, les tumeurs peuvent entraîner le corps à créer trop de ces protéines, ce qui fait que la tumeur se multiplie et grandit de manière incontrôlable. Là, avec ce vaccin, la protéine avec d'autres composants rentre dans le corps du patient et encourage le système immunitaire à produire des anticorps qui suppriment les effets de cette protéine et qui, du coup, empêchent les tumeurs de grossir, même si elles n'attaquent pas directement. Donc depuis que le cancer est lancé, je vous le dis, les résultats ont l'air vraiment, vraiment encourageants. Plusieurs études ont montré que les chances de survie des patients vaccinés augmentaient très bien. Il y a très peu de toxicité. Et les seuls effets secondaires qu'on a trouvés jusque-là, c'est des nausées, des frissons et de la fièvre. Donc par rapport à une bonne grosse chimio normale, ça a pas l'air vraiment pire. Le vaccin était pour l'instant unique à Cuba. Ah, on a eu une petite coupure, je sais pas si vous avez eu. Donc vaccin uniquement à Cuba jusqu'à présent. Les chercheurs espèrent, donc même si c'est un vaccin contre le cancer du poumon, ils espèrent que ça pourrait être utilisé pour d'autres types de cancers, puisque cette protéine n'est pas active que dans le cancer des poumons, elle joue aussi un rôle dans les cancers de la prostate, les cancers du sein, du côlon ou du pancréas, qui est un cancer, un des pire cancer que vous pouviez choper, en fait, quand on sait que vous avez un cancer du pancréas, si vous ne le savez pas, vous êtes condamné en général dans les mois qui viennent. Hein, ça rigole pas. Donc voilà, maintenant que l'embargo change, ça va pouvoir décoller pour une recherche collaborative. Il va falloir quand même que le Congrès américain apporte encore un peu apporte des changements au statut actuel de l'embargo. Mais voilà, écoutez, si jamais ça arrive jusqu'au bout, si enfin on se débarrasse des petits conflits politiques pour faire avancer la recherche et la santé dans le monde, ça sera quelque chose d'assez encourageant, hein, on espère.
Ben
Voilà.
merci Théo.
Mais de rien. Damien, tu vas nous parler d'Haïti et des remaniements ministériels qui ont cours?
Non,
Non,
c'est toi qui vas nous en parler plutôt. Haïti?
Non, moi j'ai Hawaï et l'énergie. Tu
D'accord,
m'as
ok.
dit Haïti. Tu vas pas dire
Oh,
remaniement à Haïti,
écoutez,
toi?
on
Ok,
s'embrouille là.
laissez-moi.
Non, non, non. Alors moi, de quoi je voulais vous parler? De l'Algérie. Alors c'est un
Ah oui,
droit
c'est
de
Algérie,
suite, en fait.
oui.
C'est un droit de suite. On vous avait parlé de ce thème ici à cette antenne il y a quelques temps. C'était vers janvier. À l'époque, il y avait une mobilisation anti-gaz de schiste en Algérie, une mobilisation assez importante. Et justement, il semble que cette mobilisation ait porté en quelque sorte ses fruits. La preuve en est ce jeudi, donc le 14 mai. A eu lieu un remaniement ministériel, procédé par Abdelaziz Bouteflika, le président, et 5 ministres ont été changés, notamment celui de l'intérieur, celui des finances, et un ministre important, celui de l'énergie et des mines, Youssef Youssefi. Et donc ce ministre, il était surnommé par les Algériens l'homme de schiste, puisque c'est lui qui était au cœur de cette crise, donc dont on vous avait parlé en janvier. Qui avait opposé les populations du sud au pouvoir central pour essayer de stopper l'exploration et l'exploitation du gaz de schiste sur leur terre. Donc cette exploitation du gaz de schiste, bah, elle vient dans un contexte de production d'hydrocarbures conventionnels qui est en chute et en même temps de l'explosion de la demande en carburant des Algériens. Et donc le principal souci de Youssef Youssefi avait été de convaincre les entreprises de venir investir en Algérie et de changer la loi sur les hydrocarbures afin de pouvoir permettre à ces entreprises étrangères de bénéficier d'avantages fiscaux afin de pouvoir venir chercher les ressources en gaz de schiste et donc de pouvoir venir forer dans le sud algérien. Il y avait eu donc en janvier d'immenses manifestations qui avaient démarré à Insalla, le jour où justement ce ministre était venu assister au début des travaux de forage du premier puits de pétrole de gaz de schiste. Et donc les manifestants c'était ensuite, enfin, avaient défilé à Insalla, puis ensuite dans beaucoup de villes algériennes. Et c'était mêlé des revendications autour du rejet du gaz de schiste, mais aussi une certaine rancœur à l'égard du pouvoir central. C'était en tout cas une contestation sans précédent en Algérie depuis le gouvernement Bouteflika. Ceci étant dit, la politique du gouvernement, même si le remaniement pourrait laisser croire à un infléchissement de cette politique sur le gaz de schiste, c'est pas le cas. La politique du gouvernement ne changera a priori pas, puisque Youssef Youssefi sera remplacé par Salah Kebri, qui est le PDG de l'Institut algérien du pétrole et qui a aussi travaillé pour Sonatrach, la compagnie nationale d'hydrocarbures, et qui donc a priori devrait poursuivre la même politique sur les gaz de schiste. Et il y aura encore besoin à l'avenir de la mobilisation des Algériens pour contrer le forage à tout va de leur sol et la pollution de leur nappe phréatique. Une des grandes craintes de l'exploitation du gaz de schiste en Algérie, c'est aussi d'abord d'avoir besoin de beaucoup d'eau pour l'exploitation elle-même, pour la fracturation hydraulique. Donc de prélever beaucoup d'eau, ce qui est déjà rare, et en plus de polluer les nappes phréatiques aussi par la fracturation hydraulique. Donc voilà, enjeu majeur. Un ministre est tombé, mais la mobilisation doit se poursuivre.
Merci Damien. On reste sur le thème énergétique. Je vous parlais rapidement d'Hawaï, notamment, qui a décidé d'ici 2045 de passer à 100% d'énergie renouvelable, plus aucune énergie fossile ou nucléaire à Hawaï d'ici 2045. Aujourd'hui, l'état d'Hawaï dépend énormément notamment du charbon, qui est du charbon et du pétrole, qui sont leurs principales sources d'électricité. Aujourd'hui, 22% de l'énergie à Hawaï vient d'énergie verte. Le gouvernement local veut donc faire passer cette proportion à 30% d'ici 2020, 70% en 2040 et donc d'ici 2045, 100% d'énergie renouvelable. On espère qu'ils y réussiront. Du côté de l'Europe, même si bon, tout n'est pas fameux au niveau énergie renouvelable, on voit qu'il se passe des choses. Donc l'Europe a un agenda pour 2020 pour atteindre certains objectifs en matière d'énergie verte et non polluante. Et ben, en Europe, il y a déjà des pays qui sont en avance sur leur programme. C'est un rapport qui a été publié par Eurostat qui collecte les données sur l'Union européenne. Et donc en 2012, la Suède avait déjà dépassé ses objectifs et donc le premier pays en matière d'énergie renouvelable, avec près de 51% de son énergie qui vient donc de sources éoliennes notamment. Elle est suivie de près par la Norvège. Dans l'Union européenne, donc, on a deux autres pays qui ont déjà atteint leur but pour 2020, qui sont la Bulgarie et l'Estonie, donc, qui ont connu une grande croissance en matière d'éolien. En Estonie aussi, les biocarburants marchent très très bien. Donc on est très fiers de ces pays qui arrivent à se débarrasser des énergies fossiles. Le reste de l'Union européenne, c'est quand même pas top, on doit vous l'avouer. Il y en a qui sont vraiment bien partis. L'Autriche semble sur la bonne voie, ils sont pas très loin de leur but. Le Portugal se débrouille pas trop mal. Mais par contre, le plus mauvais élève, c'est quand même le Royaume-Uni, avec 4,2% de son énergie qui vient de sources renouvelables. En France, on n'est pas excellent, on n'est pas encore à la moitié de notre but. L'Allemagne, c'est vraiment, vraiment pas top non plus. Donc vous pouvez consulter facilement ce rapport d'Eurostat pour voir où c'en est. Malte, je vous en parle même pas, ils en sont à un dixième de leur objectif. Donc 2020, c'est pas très loin, hein, c'est dans 6 ans. Le but, c'est quand même d'arriver à un taux de 27% d'énergie renouvelable sur toute l'Europe pour réduire les émissions de gaz à effet de serre de 40% d'ici 2030. Mais donc on espère que nos confrères européens vont suivre l'exemple de la Suède, de la Bulgarie et de l'Estonie. Damien, une dernière petite information sur la surveillance aux États-Unis, le Congrès américain qui interdit la collecte de massive de données.
Oui, si je retrouve ma fiche.
Je vous en avais parlé la semaine dernière déjà sur la cour d'appel de New York qui avait jugé que la collecte massive était illégale. Bon, si.
Non,
tu n'as plus ta fille, Damien. Bon, écoutez. Quoi qu'il en soit, pour faire vite, le Congrès américain a suivi la décision. La cour d'appel de New York et décide donc que la collecte massive de données par la NSA notamment ne peut plus se faire comme elle se faisait jusqu'à présent.
C'est ça. Je serai pas très précis sur le sujet parce que je retrouve plus ma fiche, mais En gros, les États-Unis ont voté, enfin, la Chambre des représentants, plus précisément, a voté un texte qui tend à limiter, en fait, le Patriot Act qui avait été voté dans la foulée du 11 septembre pour l'empêcher. Pour empêcher que cette loi permette la collecte massive de données. Et c'est exactement, en fait, le contexte est différent, mais les États-Unis sont en train de faire marche arrière sur le thème de la collecte massive de données, alors que la France est en train de rentrer
et de faire marche avant
voilà, dans cette voie-là. Donc là, on est vraiment à contre-courant, pour le coup, des États-Unis. Alors je me pose la question si c'est juste qu'on a 10 ans de retard sur les États-Unis comme toujours et que du coup dans 10 ans nous aussi on reviendra en arrière une fois qu'on se sera rendu compte que c'est pas très marrant de voir toutes nos données enregistrées sur une boîte noire et qui seront gardées indéfiniment et complètement hors du contrôle citoyen mais même en dehors du contrôle de la justice en France. Donc voilà, les États-Unis eux font marche arrière sur le Patriot Act. En France, on y va, ça y est, on y est, en avant.
C'est parti. Eh bien, écoutez, c'est là qu'on va vous laisser. On vous souhaite une excellente soirée ou un bon dimanche si vous écoutez la rediffusion. Vous pourrez retrouver ces informations pendant une semaine sur le site de Radio Zazine et pendant un temps indéterminé sur le site de Radio BAM, radiobam.org.
Et désolé pour nos petits ratés d'aujourd'hui. On reviendra la semaine prochaine avec une énergie renouvelée.
Renouvelée, tout à fait. On vous remercie pour votre attention.
Et à très bientôt donc, pour d'autres infos sur Radio Zinzine. On remercie Luc à la technique. Et puis on vous souhaite une bonne soirée ou un bon dimanche si vous écoutez la rediff. À bientôt. Ciao, ciao, bye.